La carte blanche, Africa Radio.
Avant de retrouver notre invité carte blanche, je vous rappelle que ce soir nous parlerons de la RDC. Comment analyser l'entrée en jeu des bombes artisanales à Beni dans l'est du pays? L'armée peut-elle faire face à cette nouvelle menace? Nous en parlons ce soir. Et en ligne de Cotonou, nous retrouvons notre invité carte blanche, Paul Ouelete Amoussou. Bonsoir. Allô, monsieur Amoussou, vous m'entendez?
Oui.
Bonsoir, vous êtes journaliste politique et directeur.
Ok, je suis prêt.
Voilà, vous êtes directeur du quotidien gouvernemental La Nation. Premier sujet, monsieur Amoussou.
Merci, bonjour à vous.
Bonjour, vous, on vous
à
entend.
Vos auditeurs.
Oui, on vous entend. Alors, notre premier sujet.
On n'est pas encore en direct.
J'ai l'impression que ça boucle avec le Bénin. Nous allons donc essayer avec une nouvelle fois d'avoir notre invité carte blanche, Paul Ouelete Amoussou, journaliste politique et directeur de publication du quotidien national La Nation à Cotonou au Bénin. Il va nous parler entre autres de la décision du gouvernement béninois de promouvoir l'enseignement technique et les actions ont été engagées à cet effet. D'ailleurs, mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement béninois a annoncé la création de ce qu'on appelle une agence pour la promotion de l'enseignement technique. Et nous parlerons aussi de la question sécuritaire avec le Sahel. Alors, cette fois, on me fait signe que c'est bien connecté avec Cotonou. Paul Ouelete Amoussou, vous m'entendez?
Nous, on soit bien. Bonsoir et bonsoir aux amis auditeurs.
Merci, monsieur Amoussou, donc directeur du quotidien gouvernemental La Nation. Premier sujet, le gouvernement a décidé de promouvoir l'enseignement technique et les actions ont été prises à cet effet. Quelles sont ces actions, monsieur Amoussou?
Oui, en effet, ces actions, c'est la réhabilitation des lycées qui existent et la construction de nouveaux lycées. Et le recrutement de 650 enseignants qui sont appelés à suivre une formation intensive afin de pouvoir réussir ce challenge-là, à savoir désormais la réorientation de la formation de l'enseignement au Bénin sur la formation technique.
Et qu'est-ce qui justifie cette nouvelle orientation du système éducatif béninois?
Oui, justement, vous savez, tous les mantras de l'économie mondialisée n'ont de cesse de dire que l'Afrique a toujours un train en retard. Entend-on dire quelquefois, et retard par rapport aux révolutions industrielles, celle de la machine à vapeur, celle du chemin de fer, du textile, etc. Et aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle révolution, celle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui constituent clairement le moteur de l'économie mondiale actuelle. Alors, est-ce que l'Afrique doit-il se permettre encore, en l'occurrence le Bénin, de rater ce train-là? Il faut donc faire des efforts pour que aujourd'hui la formation soit en adéquation avec le besoin qui est quelque part réel d'emploi. Les curriculums actuels de formation ne répondent pas forcément à cette exigence-là, et ce qui a fait notamment que l'Afrique, entre autres le Bénin, n'a pu bénéficier de la délocalisation. Mmh. Parce que les entreprises qui, par le passé, et au nom de la mondialisation, au nom de la maximisation de l'économie, ont délocalisé, cherchaient forcément une aide qualifiée, mais également pour quelque peu réduire les charges associées.
Merci. Donc il y avait donc un besoin d'adaptation, parce qu'il faut dire qu'au Bénin, la proportion des élèves qui sont orientés vers l'enseignement technique est faible par rapport à celle de l'enseignement général, 3% contre 97%. Deuxième sujet, monsieur Amoussou, on va aller au pas de course, malheureusement, c'est la question sécuritaire. Le président Bazoum, le président nigérien, s'est rendu à Difa pour encourager les populations déplacées à cause des attaques de Boko Haram à se réinstaller dans leur village. Quel en est l'enjeu?
Oui, l'enjeu est clairement parce que aujourd'hui, au-delà de la crise sécuritaire majeure que la situation au Sahel provoque, sujet, Il y a aujourd'hui clairement, avec la montée en puissance de l'insécurité, pour une situation humanitaire, une crise humanitaire sans précédent, qui a fait déplacer des millions de populations, et qui dit déplacement des populations, c'est en général des populations rurales, qui laissent donc des champs en friche. Et donc, cela n'est pas sans également provoquer une crise donc humanitaire, alimentaire, à l'insécurité. Donc, sécuritaire s'ajoute donc une insécurité alimentaire dans la région. Et le programme alimentaire mondial, notamment, n'a de cesse de sonner l'alerte concernant la flambée des prix des denrées alimentaires en Afrique de l'Ouest.
Merci.
Qui est aujourd'hui une région fragilisée clairement par l'enjeu sécuritaire dans le Sahel, notamment au Niger.
Yes.
Donc, je crois que le président Bazoum a bien fait parce que à la crise sécuritaire s'ajoute donc une crise humanitaire majeure et une crise économique sous-jacente.
Merci beaucoup, Paul Ouelété Amoussou. On n'aura pas le temps de parler du Burkina Faso. La colère n'est toujours pas retombée après l'attaque de Solène en début juin. D'ailleurs, l'opposition appelle à manifester demain et dimanche contre ce qu'elle qualifie d'inaction du gouvernement. Merci beaucoup, Paul Amoussou, donc journaliste politique et directeur du quotidien national La Nation au Bénin.
Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Deux explosions le week-end dernier, l'une dans une église et l'autre dans un débit de boisson à Beni, dans l'est de la RDC. Les autorités, face à cette nouvelle menace, sont-elles en mesure de faire face définitivement l'insécurité dans l'est de la RDC? C'est notre débat du jour avec trois invités. Dorcas Adikoko, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement, partie membre de la majorité présidentielle en RDC. Vous êtes également ancienne candidate à la présidentielle. C'est bien cela, Madame Adikoko?
Non, je ne suis pas candidate à la présidentielle, mais je suis présidente de l'UED Verco, comme vous avez dit. Et puis, je suis coordonnatrice adjointe chargée des communications de la plateforme SPAU, Force politique alliée de PES.
Merci beaucoup.
Coordonné par Laurent Batoumona.
Merci pour la précision. Nous avons également en ligne Miel Kaku Lalo. Bonsoir.
Bonsoir.
Militant de la lutte à lutte pour le changement en RDC. Francis Kalombo, bonsoir.
Bonsoir.
Député honoraire, porte-parole et coordonnateur de Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi, pour la ville-province de Kinshasa. Je vais peut-être commencer avec Monsieur Kalou Kaku Lalo. Est-ce que la vie a repris à Beni ce vendredi?
Alors, bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si vous me recevez.
Oui, on vous reçoit, monsieur Kaku Lalo.
Merci, moi, c'est Miel Kaku Lalo. Je suis militant de la lucha à Beni. Alors, pour le moment, dire que la vie a repris, je ne sais pas comment le dire, mais les gens essaient de s'en remettre. On n'a pas fini d'enterrer les morts. Nous sommes encore dans la consternation. Et ce que peut-être l'on peut retenir pour aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de manifestation de rue pour aujourd'hui. Cependant, il y a eu certaines activités de fouilles dans les profondeurs pour voir s'il n'y a pas eu d'autres corps dans les profondeurs, dans les environs de Beni.
Parce qu'il y a beaucoup de disparus après l'attaque de la nuit de mercredi à jeudi, je disais en début d'émission.
Exact, il y a beaucoup de personnes portées disparues et jusqu'à présent, le nombre exact n'est même pas encore défini. Mais c'est à l'heure actuelle, il y a quand même une dizaine de personnes déjà portées disparues. Seulement pour la journée du 30 juin, donc depuis le jour du massacre.
D'accord. J'ai demandé parce qu'il y a eu deux jours de fermeture d'établissements, de même que des commerces lundi et mardi. Jeudi, les activités, le mercredi, les activités ont repris. Et dans la nuit, il y a eu ces attaques. Et du coup, hier jeudi, fermeture à nouveau des activités. Comment les populations de Beni vivent-elles cette situation?
Non, c'est une douleur presque permanente de chaque jour dans les cœurs des citoyens. Jusqu'à présent, les écoles n'ont pas fonctionné, sauf quelques maisons de commerce pour les vivres. Mais d'une manière générale, les activités économiques n'ont pas repris, les activités académiques et scolaires non plus n'ont pas repris. Donc la situation, elle est vraiment très grave, elle est tendue, elle est incertaine. Et c'est comme qui dirait que chacun attend son tour pour le moment. Et peut-être que je pourrais vous signaler qu'aujourd'hui même, il y a encore un autre engin explosif qui a été découvert en pleine ville de Beni, au quartier Malépe. Heureusement, c'était avant son explosion.
Merci. Donc, monsieur.
La situation, elle est encore tendue.
Elle est très préoccupante. Merci, monsieur Kaou Lalo. Madame Adikoko, comment expliquer que, malgré les patrouilles de police qui se multiplient et de l'armée aussi, on n'arrive toujours pas à voir la situation s'améliorer? Et au-delà de ces attaques, aujourd'hui, on parle des explosions.
Oui. Ces assaillants ont changé de tactique. Vous savez que c'est le mode opératoire des ADF, c'est que les Ougandais qu'on a chassés en Syrie et tout, ils veulent venir maintenant mettre des trucs islamiques chez nous. Et quand vous dites que comment ça finit pas, c'est tout à fait normal. Hein. Le président était parti à l'est du pays, il est resté là-bas plus de trois semaines. Et ils ont remarqué que la plupart de ces militaires, c'est des citoyens de Beni. C'est des Congolais qui sont dans la journée avec tout le monde, comme monsieur, tout le monde, et la nuit ou la journée, ils commencent à opérer. Donc c'est vraiment un peu difficile à les avoir tous en même temps, raison pour laquelle le président va renforcer encore des troupes là-bas à Beni, parce que quand il était ici à Kinshasa, lui, il pensait autre chose. Il pensait qu'il y avait 21 000 personnes là-bas pour...
21 000 soldats, c'est-à-dire de
FRDC. Non, c'était pas ça. Il y avait moins de 7 000 personnes. Donc, les 14 villes qui étaient là, les 14 000 tenues qui partaient, la nourriture, l'argent... partez chez les rebelles, les gens qui nous attaquent. Donc vous voyez, avec les mêmes tenues que nos militaires à nous, ils faisaient comme s'ils étaient de nôtres. La population ne peut pas les reconnaître. Il y a d'autres populations qui les cachent chez eux. Mais heureusement maintenant, avec les renforts qui vont être mis là-bas, et la conscience, il a conscientisé la population de Beni, ils vont comme ça commencer à dire qu'on trouve des actions bizarres ou des mouvements bizarres. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'ils ont brûlé une maison où il y avait 8 ou 10 personnes et la population a détecté comme ces messieurs-là qui les attaquaient. Ils ont commencé à faire eux-mêmes aussi, cette population. Merci. Elle-même a tué ces messieurs qui nous font du mal.
Madame a dit qu'on aura le temps en fin d'émission de voir quelle peut être la réponse des autorités face à cette nouvelle menace. Alors, monsieur Kalombo, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est véritablement, ça chemine vers un changement de tactique, comme le disait madame Adikoko, de la part de ces ADF?
Merci beaucoup. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances aux familles éprouvées et à tout le peuple congolais, puisque ce qui se passe à Beni ne laisse pas ceux qui sont à Kinshasa indifférents. Tout comme ceux qui sont à Mwenedi, tout un peu partout. Partout au Congo, tout le monde pense à Beni aujourd'hui. Parce que c'est inadmissible. Et je crois que c'est vrai que l'ennemi cherche à changer de tactique, mais tout le monde est allé dans une même conclusion, c'est que l'ennemi part avec nous. Parce que je vois mal quelqu'un qui peut prendre des risques, sachant qu'il y a des troupes un peu par-ci, par-là, et arriver à venir, à franchir et à les tuer et repartir calmement, sans être inquiété, et emporter même des personnes. Donc je crois que ça, c'est une stratégie aussi que l'armée doit mettre en place, si disons les autorités, pour pouvoir traquer. Et une guerre, on peut la gagner qu'avec un très bon service de renseignement. Et ça, c'est aussi primordial. Il faut qu'on mette en place un très bon service de renseignement avec des gens qui ne se vantent pas en tant que membres des services de renseignement, puisqu'ici au Congo, les gens de la plupart des membres des services sont connus de tout le monde. Bon, on connaît déjà tel et travaille dans les services de renseignement, et à partir de là, l'ennemi l'évite.
Donc, je crois ça que, dit plus de discrétion de la part de ces agents de renseignement.
Il faut plus de discrétion, il faut des recrutements. Des nouvelles personnalités. Bien
pardon, Monsieur Kalombo, on reviendra, je l'ai dit pour Madame Adikoko tout à l'heure, on aura en fin d'émission le temps de dire qu'est-ce qu'il faut changer compte tenu de la situation actuelle avec cette nouvelle donne dans la stratégie ou la réponse des autorités. Et je vous propose de marquer une courte pause maintenant et on se retrouvera pour continuer à évoquer les raisons peut-être de ce changement de cap de la part des ADF Nalou.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment analyser l'entrée en jeu des bombes artisanales à Beni dans l'est de la RDC alors que cette localité est sous état de siège? L'armée peut-elle faire face à cette nouvelle donne des rebelles ADF? Nous en parlons ce soir avec Miel Kaoulalo, militant de la Lucha à Beni. Dorcas Adikoko, présidente de l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement, membre de la majorité présidentielle, et Francis Kalombo, député honoraire, porte-parole et coordonnateur de Ensemble pour la République de Mouskatoumbi, pour la ville-province de Kinshasa. Alors, monsieur Kaoulalo, nous souhaitons d'abord insister sur cette nouvelle donne à laquelle on assiste, des explosions qu'on ne voyait pas avant. Est-ce que vous pensez que cela a un lien peut-être avec l'état de siège qui a été instauré?
Bon, tout d'abord, moi je ne pense pas que c'est du nouveau. Cela a déjà existé auparavant à ville même de Beni. Et sur le terrain des opérations, cela a toujours été reporté régulièrement. Donc, l'ADF a toujours fait usage de bombes artisanales et que pour moi, ce n'est pas du nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, c'est peut-être de voir que même après l'état de siège, ces choses-là se produisent. C'est ce qui est tout à fait contraire. Est-ce que l'état de siège a pu impacter pour qu'il y ait des bombes artisanales? Je ne sais pas dire, mais...
Parce que certains estiment que l'utilisation des bombes artisanales en dehors des attaques habituelles à l'arme blanche ou des attaques armées vise à faire pression sur les autorités militaires et à leur montrer leur capacité de nuisance et de mutation, d'utiliser d'autres méthodes que celles traditionnelles.
Moi, je pense que les bombes artisanales font partie des méthodes artisanales de l'ADF. Cependant, je pense que ce que les gens devraient retenir, c'est que depuis l'état de siège, il n'y a pas eu d'opération lancée à Beni, que ce soit à ville ou à territoire. On est resté dans les opérations de routine du secteur Sokol à Haye.
Donc, des patrouilles.
L'armée qui n'a pas... Vous me recevez?
Oui, des patrouilles aussi, parce que vous dites que l'armée n'a pas changé sa façon de faire.
Exact, l'armée n'a pas encore changé de façon de faire. On est resté dans ces actions de routine. Dans ces actions de routine et sur le terrain, on ne peut pas dire que ce n'est pas qu'il y ait état d'urgence qui est ici ou cela. Moi, je mets cela juste à une forme de... Les léthargies d'action au sein des institutions, que ce soit de l'armée ou de la politique d'une manière générale, et que toutes ces choses presque qui se produisent aujourd'hui sont imminentes et prévisibles chaque jour. C'est plutôt les acteurs censés travailler sur la question qui ne sont pas en train d'être proactifs pour mettre un blocage, pour bloquer ces actions des adeptes. Même les fouilles au fait des barrières, elles sont encore légères. Les opérateurs de l'armée qui sont sur le terrain, que ce soit à terme de renseignement ou à terme d'opérations militaires, ils sont beaucoup concentrés. Même les animateurs des institutions d'état de siège sont beaucoup concentrés dans la mobilisation des recettes. Et moi, je pense que c'est là le détourné de leur mission principale.
Celle qui est celle de sécuriser les populations.
Pour établir la paix, oui. pour Merci. Établir la paix dans la zone.
Madame Adi Koko, quand on écoute Monsieur Kaloulalo qui est à Beni, on a l'impression que il y aura encore une accentuation de ces attaques, puisqu'il dit que l'armée n'a vraiment pas changé sa façon de faire, c'est toujours dans la routine. Il faut donc s'attendre à d'autres attaques, d'autres explosions.
Oui, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que dans notre armée, il y a beaucoup d'infiltrés. Et le président, petit à petit, est en train de changer un peu les troupes qui étaient là-bas, changer avec les gens nouveaux qui viendront. Et les mêmes personnes sont en train de vendre nos plans, tout ce que nous sommes en train de faire. Ils le disent aux assaillants. C'est tout à fait normal. Donc il faut un peu de temps, patienter un tout petit peu pour qu'on finisse d'échanger ceux qui sont là-bas. C'est des infiltrés, c'est des complices. Il y a complicité en outrance. Donc, c'est tout à fait normal et c'est pas agréable. Hein. C'est triste ce qui se passe là-bas, mais je crois que dans peu de temps, tout va finir avec nos militaires qui viennent d'arriver. Ils étaient partis dans beaucoup de pays. Ils sont formés en Égypte et aux États-Unis. Et dans peu de temps, tout ça va finir. Ils sont un peu de... Il y a d'autres même qui commencent à fuir. Hein. Il y a des Ougandais, des Rwandais, tout ça qui rentrent chez eux. Parce qu'ils ont vu que maintenant, c'est plus possible. Et ce qui reste et qui est là, c'est comme un serpent qu'on coupe la tête, il commence à s'agiter, mais Merci. Sa fin est proche.
Merci. Monsieur Kalombo, faut-il mettre tout sur le dos de ces complicités et de ces infiltrations supposées ou réelles dont parle Madame Adi Koko pour expliquer la multiplication des attaques et l'évolution vers une autre forme d'attaque des groupes rebelles, c'est-à-dire les explosions?
Mais justement, quel est le nerf des problèmes? Pourquoi ils sont à Beni? Il faut leur couper les vivres. Ils sont à Beni, la complicité, c'est par rapport aux moyens. Ça fait un temps que l'État avait abandonné Beni. L'Est a été abandonné aux groupes rebelles. Et les gens font la loi. Ils sont devenus de l'État là-bas. Maintenant, leur biftec étant en danger, ils cherchent à le protéger en intimidant. Une chose est vraie, c'est que tous ceux qui font la guerre à Beni ne le font pas à titre gracieux. Nous ne sommes pas comme en Syrie, où les gens qui mettent des bombes et qui ont mis des bombes en Europe comme étant des terroristes parce qu'ils voulaient mourir. Non. Là, vous voyez bien que les gens déposent les bombes, ils partent. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de vivre ne sont pas des suicidaires. En ce moment-là, il y a un business derrière. C'est question d'argent. Alors, aujourd'hui, la complicité est aussi, entre autres, certains qui vivent avec nous et qui sont complices de ceux-là parce qu'ils font des business avec eux. Même certains officiers, on vient de le remarquer. Moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est même si aujourd'hui, on va envoyer des unités autres sur le terrain, mais si ces derniers ne sont pas bien payés, eh bien les autres qui partiront de là vont souffrir.
Donc vous dites que la complicité supposée et les infiltrations s'expliquent aussi par le mauvais traitement salarial, les mauvaises conditions de vie des FRDC?
Mais bien sûr, moi j'étais à Beni, j'ai vu même les familles des blessés ou de soldats victimes pendant la guerre n'étant même pas pris en charge. Comment nous prenons en charge nos militaires? Comment nous prenons en charge nos blessés? Comment les militaires sont motivés? Tant qu'ils ne seront pas bien motivés, ils feront des business. Voilà pourquoi lorsqu'on envoie des militaires sur le front, il faut que ces derniers soient bien rémunérés et qu'ils mangent bien jusqu'à sa fin, afin de leur permettre d'avancer. Et le président a découvert justement, par rapport aux moyens qu'on a envoyés, eh ben, la majorité de ces moyens revenaient à Kinshasa.
Et ça, c'est quelque chose qui était détourné par les officiers.
Bien sûr,
d'accord.
Ça a été dénoncé depuis l'époque de Kabila. C'est l'impunité qui fait qu'on ne peut pas avancer. Et les autres vous diront, bon, vous allez crier aujourd'hui, mais demain on va continuer. Lorsqu'on tue la population, c'est pour traumatiser les gens à ne pas parler, à ne rien faire. Et pendant ces temps, eux, ils font leur business. Le business, comme il a dit notre ami de Lucha, c'est fait à tous les niveaux. Ils sont en train d'aller chercher les recettes, oui, mais avec qui?
Merci.
Ce sont les gens qui sont dans des barrières. Donc moi, je crois que la meilleure façon, les nerfs des problèmes, c'est là où il faut toucher, c'est-à-dire l'argent, là où ils font leur business. Aujourd'hui, on attaque les ADF. Mais qu'est-ce que font les ADF sur notre Beni? C'est ça le vrai problème qu'il faut savoir. Donc, dès qu'on va leur ôter
leur bifteck, à ce moment-là, ils n'auront plus besoin de venir tuer chez nous.
Merci beaucoup. En deux mots, monsieur Kalombo, mais pourquoi Béni? Vous disiez que oui, Béni. Pourquoi Béni? Il y a comme eu un acharnement sur cette ville qui est devenue une ville martyre. Un député de Béni parlait même de cette ville qu'on est en train qu'il compare aujourd'hui un peu à Maïdougouri au Nigeria. Il y a comme un harcèlement sur cette ville, sur les populations de cette ville. Pourquoi?
Mais c'est cette richesse qu'ils sont en train de chercher, c'est ces carrefours-là où ils savent qu'en maintenant Béni, ils peuvent gagner l'argent venant de gauche à droite. C'est l'argent, c'est les nerfs des problèmes. Lorsque les autorités vont découvrir et lorsqu'ils vont ôter Béni de ça, eh ben, à partir de... il faut que l'État revienne à Béni. Il faut que l'autorité de l'État revienne. Il faut que les recettes reviennent automatiquement à l'État. Les gens qui ont leur plantation en brousse, ils respectent plus les ADF qui vont leur traquer là-bas. Et qui vend les minerais? Qui vend les richesses de Béni? Qui vend les recettes agricoles?
Merci, monsieur Kalombo. Il faut permettre aux autres de s'exprimer. Vous avez déjà gardé la parole pendant longtemps. Madame Adikoko, est-ce que les FRDC sont aujourd'hui en mesure de s'adapter à cette autre forme de menace que représentent les explosions? Est-ce qu'elles sont capables d'y arriver? Alors qu'elles ont déjà du mal à faire face aux formes traditionnelles d'attaque des ADF.
Ils n'ont pas du mal, hein. Ils sont vraiment en train d'avancer terriblement.
J'ai dit du mal, hier encore on parlait de dizaines de personnes mortes, madame, dans une attaque dans la nuit de mercredi à jeudi, malgré l'état de siège. Donc les résultats, en tout cas, ne sont pas ceux qu'on espérait. Non, alors aujourd'hui, face à cette nouvelle menace, que peut l'armée?
Par rapport à ce qu'ils faisaient avant, sincèrement, ça a beaucoup changé, diminué. Mais bon, la mort des gens, même une personne, c'est cher. 10, c'est beaucoup. Mais par rapport à ce qui se passait avant, à Béni, ça a beaucoup changé. Et maintenant qu'ils ont compris, ils sont vers la fin, ils sont traqués, ils ont changé de tactique. Et en changeant de tactique, notre armée aussi va changer. D'autant plus qu'il y a d'autres militaires qui sont venus des États-Unis, de France, de l'Égypte et tout, qui ont été formés vraiment, et ils sont en train de remplacer ceux qui étaient là-bas, et ils ont des techniques nouvelles pour traquer ce qui se passe là-bas. Et aussi, il faudrait aussi que la population de Béni entre en danse, aide les militaires. Tout seul, ils ne pourront pas, parce que c'est la population de Béni, la plupart de ces gens, c'est la population de Béni qui les cache. Ils sont dans des maisons. C'est pourquoi nos militaires actuellement font de porte à porte pour fouiller les maisons, voir ce qui s'y passe. Donc, avec leur complicité, les gens des Béni, je crois que ça va aller. Ça Merci. Va aller, et puis bon, passons-toi un tout petit peu.
Monsieur Kaoulalo, vous aussi, vous pensez que aujourd'hui l'armée a la capacité de faire face à ces explosions qui se multiplient, ce à quoi on n'assistait pas vraiment avant, enfin, pas ces dernières années?
Bon, moi, je voudrais d'abord réagir à ce qu'a dit par rapport à la population. Moi, je crois que cette manière de penser que c'est la population qui cache les assaillants, c'est comme ça qu'on déroute toutes les informations par rapport à Béni. Il n'y a pas de population qui cache les assaillants ici à Béni. Nous avons travaillé sur cette question plusieurs fois, nous avons fouillé de toute manière, les assaillants ne sont pas dans la population. Donc, aussi longtemps qu'on continuera à considérer que c'est à cause de la population qu'on n'a pas réussi, on est en train de se tromper. Maintenant, à ce qui concerne l'armée, je crois que les militaires sont censés savoir c'est quoi une explosion, c'est quoi une guerre asymétrique, c'est quoi une guerre ordinaire, si je peux le dire comme ça. Donc, un militaire qui ne peut pas savoir qu'un engin explosif existe et qu'il faut commencer à s'adapter, ça qu'il n'a pas été formé. Et que ces gens sont formés par les moyens de l'État. Ils sont censés savoir c'est quoi une formation militaire. Comment un militaire peut ne pas savoir qu'il existerait dans sa carrière des engins explosifs comme ça? Moi, je crois qu'ils sont tenus de savoir s'adapter à ça. Et ça pourrait faire partie de leurs activités régaliennes. Donc, faire face à un engin explosif, ça ne pourrait pas être du nouveau dans l'armée. Il se pose plutôt un problème de volonté au niveau des institutions tant politiques que militaires.
Mais les FRDC que vous voyez agir, et notamment et surtout depuis l'état de siège, sont-elles, est-ce que cela vous rassure quand vous voyez comment ils fonctionnent aujourd'hui, ces éléments, est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment s'adapter à cette nouvelle forme d'attaque des ADF qui, c'est une évolution.
Nous pensons que l'armée, depuis la nuit des temps, elle est à mesure de faire face à l'ADF. Peu importe tout ce qu'il y a autour de l'ADF communautaire. Seulement, il faut un minimum d'organisation de l'armée. Il faut un minimum de discipline dans l'armée. Mais même l'armée, tout ce qu'on a comme armée là, il suffit qu'on la traite efficacement, il suffit qu'on la nettoie, qu'on la réorganise et tout va aller.
Donc vous faites confiance à l'armée, malgré tout, malgré les reproches qui ont été relevés tout à l'heure et les conditions difficiles relevées par M. Kalombo.
Oui, on a des conditions difficiles comme les populations. Ce qui fait mal, c'est pas les conditions.
Pardon, M. Kaloulo, je vais vous interrompre. La liaison avec Béni se détériore. A tout de suite pour aller au bout de notre émission.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons de la RDC. Les FRDC sont-elles armées pour affronter et venir à bout de la nouvelle menace sécuritaire, à savoir les explosions à Béni? Nous en parlons avec Francis Kalombo de Ensemble pour la République, Miel Kaloulalo, militant de la Lucha à Béni, et Dorcas Adikoko, président de l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement, parti membre de la majorité présidentielle. Et je vais commencer avec vous, monsieur Kalombo, et merci d'être précis et bref, s'il vous plaît. Si on vous demandait aujourd'hui si vous faites confiance à l'armée congolaise pour pouvoir éteindre ce nouveau front des attaques, enfin liées aux des explosions plutôt, puisque les attaques sont là depuis à Béni, est-ce que vous pensez que vous pourriez répondre avec l'affirmative, par l'affirmative?
Oui, je peux affirmer, puisque je fais confiance à l'armée. Je crois que l'armée peut, puisque notre armée a déjà prouvé dans le passé, résister face à plusieurs menaces que la République démocratique du Congo a connues. N'eût été cette armée, le Congo était déjà morcelé, et le Congo n'allait plus exister dans sa configuration actuelle. Je fais confiance à l'armée et je fais confiance au peuple congolais. Mais sauf que aujourd'hui, nous disons que la volonté des hommes peut toujours et encore changer les cours des choses. Et cette volonté marquée par le président de la République en étant sur terrain doit se manifester dans le concret par rapport à lui, pas lui seul, mais ses collaborateurs, les gens à qui lui a élevé à des responsabilités qui doivent l'aider à résoudre ce problème, mais aider pas le président en tant qu'individu, mais la République démocratique du Congo, puisque on en a marre. Et aujourd'hui, il faut que les militaires soient bien payés, il faut surtout qu'il y ait des sanctions. Ce qui tue dans ces pays, ce sont ces manques de sanctions, lorsqu'on ne sanctionne pas les gens, puisqu'aujourd'hui, on peut remonter pour découvrir qui bouffait l'argent, qui faisait quoi, mais vous verrez que les gens ont des parapluies par-ci, par-là, et à un moment donné, il y a d'autres personnes, bon, on ne sait pas les toucher, et ben voilà. Moi, je crois, je fais confiance à l'armée, les militaires du rang sont des très très bons militaires, mais qu'on puisse bien les payer, j'étais à...
Et les mettre dans de bonnes conditions.
Et les mettre dans des bonnes conditions. Moi, merci. J'étais personnellement accompagné Moïse Katumbi à Béni. On a vu, on a échangé avec la population et les militaires. Je vous dis qu'ils sont vivent dans des conditions très, très difficiles.
Merci, M. Kalombo. Le temps roule, passe très vite. Il faut qu'on écoute les autres. Kaloulalo, qu'est-ce que vous attendez de l'armée pour améliorer la situation sécuritaire et répondre plus spécifiquement à cette nouvelle menace?
Nous pensons que, il faut vraiment lancer les opérations à proprement parler. Mais pour y arriver, il faudrait actionner les leviers de justice au sein de l'armée. Il y a eu beaucoup d'affairistes, il y a des gens qui détournent même les munitions. Il faudrait que la justice se charge de ces cas-là. Il faudrait qu'on arrête aujourd'hui de s'acharner contre la population de Béni. Il faudrait qu'on arrête la répression par rapport aux gens qui dénoncent les massacres. Vous avez vu comment les élèves se sont fait maltraiter à la mairie de Béni. Aujourd'hui, la Lucha compte deux militants en prison à Butembo. pour avoir dénoncé les massacres qui sont en train de se passer dans cette zone ici.
D'accord.
Et comment voulez-vous...
Est-ce que vous pensez que... Oui, là, oui, vous avez passé votre message qu'on ne s'en prenne plus aux populations, mais est-ce que vous pensez que depuis ces explosions de dimanche dernier, la réponse des autorités militaires va dans le bon sens? En deux mots?
La réponse n'est pas encore là, mais nous l'attendons. Comme nous l'avons appris qu'il y aura des unités qui viendront, il n'y a que ça. Il aurait fallu qu'on commence par la formation des unités avant de lancer l'état de siège. Voilà ce qui a été. On a commencé par le verbe et nous pensons qu'il est encore possible de reprendre les choses à nous.
Merci beaucoup. Et vous, Madame Adi Koko, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces explosions qui ont touché l'Église catholique finissent peut-être par provoquer une guerre entre communautés religieuses? Est-ce que vous craignez aussi ce risque?
Non, je ne pense pas qu'ils vont en arriver là, parce que nos militaires sont là. Et aussi, il y a un problème dans tout ça. C'est notre classe politique qui ne veulent pas la réussite du président à cause de leur positionnement en 2023. Donc, il nous faudrait vraiment faire appel à un fonds patriotique derrière cette guerre injuste qu'on nous impose. Si tous les Congolais étaient un comme une seule personne, je pense que ça allait aller trop vite. Mais je crois que l'initiative de l'état de siège va arranger ces choses et avec...
Excusez-moi, Madame Adi Koko, dans ma compréhension de propos peut-être de Monsieur Kalou Lalo, je suppose que c'est à lui que vous adressez. Il m'a pas semblé qu'il est contre l'état de siège. Il explique que ça a été simplement un peu mal organisé, qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Il n'y a pas eu un vrai diagnostic avant de décréter cet état de siège.
Avec le temps, je crois qu'il va changer. Sa façon de voir, avec le temps, il va changer. Oui, ça a été fait. Bon, il voulait quoi? Qu'on prenne encore du temps à dire, oui, on va faire ceci, cela. Mais ça a été fait à l'amont. Les gens ne savent pas. C'est quand même des choses qu'on ne peut pas crier comme ça. Parce que à chaque fois qu'on préparait quelque chose, ne sachant pas que dans notre armée, il y avait des ceux qui divulguaient tout ce qu'on disait, il y avait des intrus, il y avait des infiltrés. Donc, il ne fallait pas qu'on les dise comme ça. Que tout le monde soit là. Ça a été fait en catimini et maintenant, ça commence à se voir. Non, ça va aller.
Merci
ces
beaucoup.
Choses-là qui touchent les militaires et tout ça, ça ne se parle pas comme ça devant tout le monde. Oui, on avait des infiltrés, on ne pouvait pas cacher des choses. Mais je crois que le président aussi va finir, et ça a déjà commencé. Mais comme c'est trop sensible, on ne va pas crier à la toile. Toi pour dire que oui, on a arrêté un tel. Ça viendra avec le temps et on comprendra.
Monsieur Kalombo, en 30 secondes, est-ce que vous soutenez l'action du gouvernement à Béni et dans les deux provinces sous état de siège?
Oui, je soutiens. Vous savez, il ne faut pas juger les présidents par rapport aux certitudes d'aujourd'hui. Il a bien fait de prendre cette décision bien avant. Je comprends parfaitement notre ami de Lucha, sauf qu'il a fallu que le président, en le prenant, qu'il découvre ce qu'il a découvert. Moi, je pense que nous jugeons avec les certitudes d'aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Le président n'avait pas, mais il a décidé, puisqu'il fallait qu'il y ait des décisions pour pouvoir concentrer les efforts. Le fruit de ça, on le sentira. C'est là un souhait de tout le monde. Mais je crois que la décision a été prise. C'était une bonne décision, prise au bon moment. Et aujourd'hui, nous avons une certitude par rapport à l'évolution, justement, puisqu'il avait pris ça, qu'on constate qu'on aurait pu faire ça avant.
Non, merci, Francis Kalombo, député honoraire et porte-parole de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi pour la ville, province de Kinshasa. Merci à Miel Kakulalo de la Lucha. Et merci à Dorcas Adi Koko, présidente de l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement, parti membre de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.